Bonjour, c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous. Au cours de ces promenades dans les rues, à relever les noms, peu ou pas connus, et rechercher qui se cache bien involontairement derrière, il y a des étonnements à la lecture de certains, et quelquefois on peut être étonné par les patronymes eux-mêmes, certains pouvant avoir une musicalité et même une forme de poésie. Je vais évoquer aujourd'hui Brin de Jonc des Moulinets, de son prénom composé Marcel Georges. Ce nom, élégant bien qu'un peu compliqué, cache... après février 1892, date de sa naissance, un garçon simple et modeste, bon élève et bon étudiant, obtenant une licence de mathématiques à l'université de Rennes. Cela ne l'empêche évidemment pas, lui, fils de Breton, fils d'un capitaine d'infanterie, d'être passionné par l'aviation naissante. Et dans sa région, il y a Dinan et Dinard, où l'on vole beaucoup. Il assiste, passionné, à tous ces vols, et n'a de cesse que d'apprendre à piloter. Pour cela, à cette époque, le mieux n'est-il pas d'avoir son propre avion? Alors il arrive à réunir, en empruntant dans sa famille, une somme de 4000 francs, somme importante que l'on peut estimer à 80 000 euros d'aujourd'hui. Donc il emprunte pour acquérir une demoiselle. Demoiselle, c'est le nom de l'avion. Il emmène cet avion démonté à Pau, où il s'inscrit à l'école de pilotage. En 1911, il est breveté pilote civil. Considérons bien qu'il y a à peine 3 ans que Farman a réalisé son fameux kilomètre en se reposant à son point de départ, c'est-à-dire en ayant exécuté des évolutions, et il y a moins de 2 ans que Louis Blériot a traversé la Manche, véritable exploit. On peut évaluer l'engouement pour l'avion en considérant que notre héros a déjà le numéro de brevet 448, le numéro 1 ayant été attribué à Blériot 2 ans plus tôt. Pour amortir son achat et rembourser sa famille, il participe à de nombreuses exhibitions aériennes dans le sud-ouest de la France. Sur les conseils de Gabriel Voisin, il remplace sa demoiselle par un Borel, avec lequel il a un grave accident pour avoir accroché un bras de grue et chuté d'une grande hauteur. À peine sorti de l'hôpital Boussicault, il finit par se faire embaucher chez Morane Saunier. Il a un nouvel accident, s'écrasant avec son avion sur le toit d'une maison. Éjecté de l'avion, il finit dans un potager. C'est l'époque où la renommée se fait non seulement par des exploits, mais aussi par des accidents et les situations cocasses parfois engendrées par les accidents. Et de fait, sa renommée grandit au fur et à mesure des exhibitions qu'il cumule avec une frénésie réjouissante. Le succès, notamment à Carcassonne, est énorme partout en France. Une bagarre épique à Angers, avec une météo déplorable, qui l'oppose à Roland Garros, participe largement à cette notoriété. Il tente en 1912 la Coupe Pommery, qui récompensait les pilotes ayant volé sur la plus grande distance en un jour, mais hélas, un incident mécanique l'oblige à se poser. Cette coupe, il obtiendra finalement en 1913 en reliant Paris à Varsovie, 1380 et quelques kilomètres en 14 heures de vol, après plusieurs escales, dont le temps d'arrêt est décompté. Il pilotait, depuis la place arrière, un Morane Saunier biplace de type H. Partant de Varsovie, il en profite pour faire une tournée des capitales de l'Est, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Copenhague, La Haye, avant de rentrer à Paris. Anecdote curieuse démontrant bien cet enthousiasme partout dans le monde pour cet essor de l'aviation, Brin de Jonc des Moulinets avait pu obtenir, on ne sait trop avec quelle influence, il avait pu obtenir des autorités suisses qu'il y puisse survoler pendant 300 kilomètres au-dessus de la mer Baltique entre Saint-Pétersbourg et Stockholm, qu'il puisse donc survoler cette étendue d'eau, alors que 8 torpilleurs soient disposés sur le trajet pour parer à toute éventualité. Il avait pu faire, avant ce périple, plusieurs raids, dont Paris-Londres, Paris-Londres, Bruxelles, Paris, au cours duquel il récolta une amende pour avoir survolé Londres trop bas. Également Paris, Bordeaux, Burgos, Barcelone, Perpignan, Paris, avec monomoteur Morane Saunier C. Partout, il est accueilli par des ovations exceptionnelles, sa renommée est extraordinaire, et on raconte que des lettres lui parvenaient avec pour toute adresse « Brin de Jonc des Moulinets, France ». Il est bardé de décorations et de médailles. Celle de la Légion d'honneur française à 21 ans faisait de lui le plus jeune détenteur de cette médaille. Il avait également celle de l'ordre de Sainte-Anne en Russie, celle de l'ordre de Gustave Vasa en Suède et celle de l'ordre de Dannebrog au Danemark. Ajoutons un fameux challenge triangulaire dont il sortit vainqueur face à Edmond Audemars et Maurice Guillot, ce dernier qu'il connaissait bien car il avait failli être victime d'une malhonnêteté de sa part à Varsovie lors de la Coupe Pommerie sur fausse déclaration de parcours. Tout au long de cette année 1913, il accumule les exploits, ainsi qu'en 1914 jusqu'à la déclaration de la guerre. Caporal, il est affecté au 2e groupe d'aviation de Lyon, puis placé comme observateur dans l'escadrille DO-22 pour enseigner l'état-major sur les mouvements sur le front dans la Marne. Rapidement, il est promu sergent et il passe sous-lieutenant 3 mois plus tard. Des problèmes de santé l'obligent au repos. Ce problème, il l'a d'ailleurs depuis longtemps. C'est une entérite que l'on ne savait pas vraiment comment traiter et qui affecte l'intestin et crée des crises que l'on peut comparer à une appendicite. Mais ce repos lui pèse, même s'il lui permet d'exercer le rôle de chef pilote de l'école Moralsonnet. Il arrive à se faire intégrer à nouveau en 1916 et rejoindre l'escadrille numéro 23, spécialisée dans les missions de chasse et de bombardement lointain, et surtout des vols de reconnaissance, pour lesquels il se montre particulièrement efficace et ramène quantité de renseignements déterminants sur les mouvements des uns et des autres. Il rencontre plusieurs victoires aériennes en juillet 1916. En août 1916, le 18, il décolle pour une mission à bord d'un avion peint selon un camouflage qui n'est pas forcément connu de tous les avions alliés. Et deux Nieuports français, ignorants ou non informés de cette particularité, l'abattent au-dessus de Vadelincourt, dans le secteur de Verdun, dans la Meuse. Il avait 24 ans. J'aurais dit seulement 24 ans, mais si l'on considère tout ce qu'il a accompli, surtout depuis qu'il a obtenu son brevet, un peu plus de 5 ans auparavant, on peut croire que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Son capitaine dira de lui le soir de sa mort, c'était un homme de panache pour lequel l'honneur passe très au-dessus de la vie, tandis que la citation à titre posthume évoquera, je cite, « officier aussi brave que modeste, incarnant en lui toutes les qualités qui font le héros simple et accompli ». Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle balade dans une nouvelle rue faisant honneur à une gloire de l'aviation et une nouvelle chronique sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude 93.5.